Donc il y a ce petit texte, je voudrais, en fait ce texte au chapitre 3 de saint Marc, verset 35, je voudrais l'introduire. Alors. Donc je vais d'abord introduire le texte et puis ensuite je vous parlerai du discernement. Vous n'avez pas vos Bibles, c'est pas très grave parce que je vous ai mis le texte sur la première page. Alors, on nous dit ceci au chapitre 3, verset 13. « Il gravit la montagne, il appelle à lui ceux qu'il voulait. Ils vinrent à lui, et il en fit 12 pour être avec lui et pour les envoyer prêcher, avec pouvoir de chasser les démons. Il fit donc les 12. Il donna à Simon le nom de Pierre, puis Jacques le fils de Zébédée, et Jean le frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre, puis André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques le fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélé, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. » Bon. Voyez, c'est au bout d'un certain temps, Jésus a appelé des disciples au bord du lac. Bon, il a appelé Lévi. Puis à un moment donné, il va créer une garde rapprochée. Et donc, il va appeler les 12 apôtres. Deuxième étape, donc. Après un appel des disciples assez général, on a un appel de 12. Alors, curieusement, au verset 20, qu'est-ce qu'on nous dit ? Il vient à la maison. Et de nouveau, la foule se rassemble au point qu'il ne pouvait pas même manger de pain. Et les siens, l'ayant appris, partirent pour se saisir de lui, car il disait, il a perdu le sens. La question, là, tout d'un coup, c'est curieux. Il y a une famille que Jésus est en train de créer. C'est la famille des 12. Hein? Et tout d'un coup, il y a son ancienne famille qui réagit, qui sort, là. Il vient à la maison. Bon. Et puis, les gens disent, oh là là, il n'a pas le temps de manger. Fou là là, il est complètement fou. Il a perdu le sens. Est-ce que c'est ça le vrai motif ? Est-ce que la famille, le fait de dire que tiens Jésus, il faut vraiment qu'on prenne soin de lui parce que vraiment il ne peut pas manger, tout ça. Est-ce que c'est ça le problème, le vrai problème ? Ou est-ce que le problème, ça ne serait pas que Jésus, eh bien tout d'un coup, est en train de constituer une autre famille ? Oui. Les gens, ils vous disent, oui, le problème, il est là. En fait, le problème, il n'est pas là. Est-ce qu'il n'est pas que tu es en train de constituer une vraie famille, une autre famille ? Alors, on va avancer, on va voir. Alors, ensuite, vous avez une calomnie des scribes. Vous voyez, on nous dit, il est possédé de Belzéboul. Voilà, bon, je ne vais pas tout lire ça. Mais en même temps, c'est intéressant dans cette histoire... des scribes qui accusent Jésus d'être possédé par Belzéboul, donc le démon. Et Jésus dit, verset 24, « Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume-là ne peut subsister. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison-là ne pourra se maintenir. » Tiens, vous voyez, tout le thème de la maison qui revient. « Il vient à la maison et de nouveau la foule se rassemble. » Et là, si une maison est divisée contre elle-même, la maison, c'est le bâtiment, mais c'est aussi la famille. Comprenez ? Bon, donc ce thème de la maison, voilà, bon. Et puis, j'arrive à ce qu'on appelle la vraie parenté de Jésus. C'est le titre de la Bible de Jérusalem, mais qui est intéressant et qui me paraît assez juste. Alors je lis. Sa mère et ses frères arrivent, et se tenant dehors, il le fit rappeler. Il y avait une foule assise autour de lui et on lui dit, « Voilà que ta mère et tes frères et tes sœurs sont là dehors qui te cherchent. » Il leur répond, « Qui est ma mère et mes frères. Et promenant son regard sur ceux qui étaient assis en rond autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là met un frère et une sœur et une mère. » Alors, donc, on commence, vous voyez le texte, si je prends le fil, Jésus constitue une famille. Qu'est-ce qu'elle doit faire, cette famille? Il appelle à lui ceux qu'il voulait. Ils vinrent à lui, il en appela 12 pour être avec lui et pour les envoyer prêcher. Et cette famille-là, elle va avoir les mêmes pouvoirs que lui. Prêcher comme Jésus, c'est ce qu'il fait au début de l'évangile, avec pouvoir de chasser les démons. C'est exactement ce que fait Jésus. Quand on regarde l'évangile de Marc depuis le début, qu'est-ce que fait Jésus? Deux choses. Bon, il prêche et il enlève les démons, il chasse les démons. Bon. Alors, il y a cette nouvelle famille qui est là, et tout d'un coup, eh bien, sa famille d'origine se réveille en disant « Oh là là, mais t'as pas perdu un peu la tête, etc. » Et puis, dans le dernier épisode, sa mère et ses frères sont là dehors. Ils le font appeler. Un peu dehors. « Jésus, là, tu viens ? Oui ? Tu viens, là ? On a besoin de toi, là. » Bon. Et alors Jésus dit « Écoutez, c'est pas à moi de venir vers eux. C'est pas ma mère et mes frères, etc., qui ont des droits sur moi ou des privilèges. Non, non. Du coup, ça me fait penser à ma mère et mes frères. Eh bien, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. » Alors, vous êtes en train de me dire, mais en fait, Jésus est en train de mettre un peu sa mère et sa famille. Alors, ses frères, c'est sa famille au sens large. Un peu de côté. Non, il n'est pas là à mettre sa famille de côté. Il élargit sa famille. Et il est en train de dire que la famille d'origine, donc derrière, c'est le symbolisme d'Israël. Israël, c'est la famille qui a des droits. Eh bien, cette famille, en fait, elle n'a pas de droit. L'élection, donc c'est toute la question de l'élection, ne donne pas de droit. En fait, il y a un déplacement. L'Église ne va pas être cette descendance d'Abraham par le sang. L'Église, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Alors vous dites, mais Marie, elle est mise de côté. Non, Marie, justement, c'est le modèle de celle qui fait la volonté de Dieu. Vous avez exactement la même chose avec le fils prodigue et le fils aîné. Hey, voilà tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé un seul de tes ordres, et jamais, tu vois. J'ai des droits. Ben non, t'as pas de droits. Enfin, voilà, tu as tous les droits que tu veux si tu rentres dans une relation filiale avec moi. Et oui, tout ce qui est à moi est à toi, et je vois pas quel est le problème. Alors, je ne vous ai pas mis le texte, mais je vous le dis oralement. Après ça, vous avez la parabole du semeur. Et puis, quand il fut à l'écart, ceux de son entourage, avec les 12, l'interrogeaient sur les paraboles. Voilà, chapitre 4, verset 10. Et il leur disait, « À vous, le mystère du royaume de Dieu a été donné, mais à ceux-là qui sont dehors, tout arrive en parabole, afin qu'ils aient beau regarder et qu'ils ne voient pas. » Vous voyez, à ceux qui sont dehors, tout arrive en parabole. Vous voyez, ce thème du dehors dans l'évangile de Marc, là, dans ce texte, regardez de près après chez vous, il est vachement important. Hein, ta mère et tes frères sont là dehors qui te cherchent. Non, non, attends, oui, mais... Ils ne veulent pas s'impliquer dans la relation. Hein? Promenant son regard sur ceux qui étaient assis en rond autour de lui. Les paraboles arrivent à ceux, sont comprises par ceux qui sont avec lui, autour de lui. Hein? Mais à ceux qui sont dehors, au loin, ben, tout reste un peu mystérieux. Et donc, ceux qui sont autour de lui, ceux qui cherchent l'explication des paraboles, ce sont ceux, en fait, qui font la volonté de Dieu. Ils sont un frère, une sœur et une mère. Vous comprenez? Hein? Les gens qui disent, écoutez-moi, vous savez, je suis chrétien, je suis baptisé, j'ai fait ma confirmation, j'ai fait mes communions. Non. Le chrétien ne se définit pas parce qu'il a fait sa communion, sa confirmation. Il se définit parce que tu viens vers Jésus. Tu es autour de lui et tu cherches la volonté de Dieu. C'est très actuel. Les gens vous disent, je suis très religieux. Attends, non. Le religieux, c'est celui qui fait la volonté de Dieu et qui se déplace. D'accord? Donc Jésus est en train d'élargir cette élection, l'élection d'Israël, eh bien, elle s'adresse à tout homme. Hein? Voilà, elle s'adresse à tout homme. Quiconque fait la volonté de Dieu peut être frère de Jésus. Bon. Alors, la question, du coup, pour nous, faire la volonté de Dieu, c'est venir près de Jésus, c'est sûr, mais plus largement, qu'est-ce que la volonté de Dieu? Et donc, j'aurais voulu, dans cette deuxième partie, vous donner quelques clés sur le discernement. Voilà. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là met un frère, une sœur et une mère. Je pense que frère de Jésus, frère et sœur, pas père, hein, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est un père. Non, nous n'avons qu'un seul père, le Père du ciel. Donc Jésus n'emploie pas le mot père. Par contre, frère et sœur, hein, on partage le même esprit que Jésus. Donc on peut dire Abba, père, comme Jésus. Et une mère, ça veut dire qu'on donne la vie. En fait, moi c'est comme ça que je l'interprète. Quelqu'un qui fait la volonté de Dieu, c'est quelqu'un qui donne Jésus, qui enfante Jésus au monde. Alors, qu'est-ce que la volonté de Dieu? Alors, la volonté de Dieu, vous avez la réponse en 1 Timothée 2,4. 1 Timothée 2,4, lui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc les gens qui disent, ouais, je cherche la volonté de Dieu, je cherche à discerner. Vous n'avez pas le texte, hein, là, voilà, je mets pas tout parce que je vous dirai à chaque fois que. Donc 1 Timothée 2,4, vous avez une Bible, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc la volonté de Dieu, c'est le salut. Donc quand je cherche la volonté de Dieu, je cherche en gros à ce que ça me sauve, moi, et que cette activité, cette action que je vais faire, parce que la volonté de Dieu c'est une action, eh bien, ça permette le salut. Bon. Moi, pourquoi j'ai été prêtre? Pour me sauver et pour sauver les gens. Quelqu'un qui se marie, c'est pour pareil. Quelqu'un qui. Bon, vous voyez, tout ce qu'on fait, toute réflexion, je dis ça parce que des couples que je prépare au mariage, ils sont pas dans cette réflexion-là. Ils se marient pas pour sauver le monde. Bon, voilà. Quand je fais un achat, voilà, c'est la question, c'est le salut. Est-ce que d'acheter cette troisième voiture, ça va te permettre davantage d'être sain ou pas? Bon. Mais c'est tout. Ben oui, non. Moi, si j'avais pas de voiture, ça serait compliqué pour le ministère, pour la sainteté des fidèles. Vous voyez, il fallait que je fasse tout à pied. Donc la réflexion, c'est le salut. Alors d'abord, ce qu'elle n'est pas, cette volonté. Ce qu'elle n'est pas. Ensuite, on verra ce qu'elle est. Ce qu'elle n'est pas, la volonté de Dieu n'est pas un ordre de Dieu qui irait à l'opposé de mon tempérament ou de mon histoire. Souvent, quand il y a des grands tournants dans une vie, souvent il y a une pause. C'est pas forcément brutal. Dieu épouse quand même notre histoire. Même chez saint Paul, vous voyez, saint Paul, bon, il va être missionnaire avec des dispositions naturelles. C'est un voyageur, c'est quelqu'un qui a un métier, il fabrique des tentes, quelqu'un qui est très cultivé, qui a été à l'école de philosophie, qui a deux nationalités, etc. Donc il a des dispositions naturelles. Bon. Donc quelque chose qui n'est pas à l'opposé de mon tempérament. Elle n'est pas non plus une proposition de Dieu qui m'enfermerait où ma liberté ne serait pas sollicitée. Voilà, la liberté est toujours sollicitée. Du coup, de cela découle quoi? Que la volonté de Dieu n'est jamais hyper claire. Voilà. Alors, la volonté de Dieu n'est pas une proposition, dernière chose, qui me rendrait malheureux. Dieu nous fait désirer ce qu'il désire nous donner. Je répète, Dieu nous fait désirer ce qu'il désire nous donner. Vous savez, les gens, les ados, ouais, mais comment savoir si on est appelé à être prêtre, consacré? Quand tu seras appelé, tu le sauras, quoi. Non, mais. Et puis, il y a des peurs derrière. Ouais, mais vraiment, moi, j'ai pas du tout envie d'être consacré. Oh là là, mais t'inquiète pas, si tu veux être consacré, t'auras ce désir dans ton cœur. Bon. Voilà. Ce qu'elle n'est pas, donc, quelque chose à l'opposé de mon tempérament. Quelque chose qui ne solliciterait pas ma liberté, quelque chose qui me rendrait malheureux. Alors maintenant, ce qu'elle est, la volonté de Dieu. Et puis après, on verra comment la discerner. Alors, ce qu'elle est, elle est d'abord mon devoir d'état quotidien. Vous voyez, bon, je prends toujours l'exemple d'une mère de famille, mais bon, vous n'êtes pas tous mariés, c'est pas grave. Alors, une mère de famille, vous voyez, qui dirait, ouais, je sens qu'il faut que j'aille 3 fois par semaine au groupe de prière. Je prends les trucs un peu exagérés exprès. Bah oui, mais enfin, t'es mère de 5 enfants, ils seront peut-être contents que tu sois là aussi le soir et que tu ne partes pas tout de suite à 20h pour aller au groupe de prière, 3 fois dans la semaine. Ton devoir, c'est peut-être d'être avec aussi tes enfants. Bon. Toi qui es curé, ton devoir d'état quotidien, ben mon devoir, c'est d'être à la paroisse, c'est pas de parcourir la terre pour, je sais pas quoi, faire des enseignements sur le discernement. Voilà, par exemple. Alors, ce devoir d'état, il va passer par les règles qui sont en place dans l'état où je suis. Voyez, par exemple, dans une vie communautaire, il y a des règles. On arrive à l'heure, au repas, il y a une vie. Vous voyez, souvent, on fait le tri. Je me suis posé la question, vous voyez, pourquoi Jésus est né à Bethléem alors que Joseph est de Nazareth? Pourquoi Jésus naît à Bethléem? Parce que Jésus, ses parents vont obéir au recensement. Vous voyez, il y a des règles, il y a un recensement, hein, et du coup, on épouse ces règles-là, et du coup, Jésus va naître à Bethléem. Alors après, il y a un songe pour partir en Égypte, etc. Mais ça, c'est dans un second temps. D'abord, Joseph et Marie se conforment aux règles qui sont en place. Voilà. Ouais, il y a des gens, ils cherchent la volonté de Dieu, ou ils font des choses, mais en fait, ils court-circuitent les règles. Bon. Alors ensuite, la volonté de Dieu, c'est un appel doux de l'Esprit Saint. La volonté de Dieu en général ne nous contraint pas, je ne sais pas comment dire. C'est doux, bon. Oui, ça nous bouscule, mais vous voyez, c'est pas l'injonction. Il faut faire ça, c'est un péché, etc. Dieu est doux, enfin, je sais pas comment dire. La lumière de Dieu, elle est toujours à la fois. C'est pas une lumière froide comme la lumière du monde, vous voyez, qui juge. Dieu, quand il nous montre quelque chose, il nous donne aussi les moyens pour y arriver. Oui, voilà.
Il bouscule parce qu'elle a le moins à lui déplacer.
Oui, c'est
quelque chose de lent qui devient plus fort.
Oui, bon, on va voir. Je vais un peu avancer et on va compléter. Bon, alors je dis un peu l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure. Enfin, l'inverse au sens. Du coup, c'est une proposition qui me rendra heureux, moi, ça, voilà, et qui sollicite ma liberté. Alors. Ce qu'elle est, donc, ça va solliciter ma liberté, c'est-à-dire que je n'ai pas forcément de signe. Alors, j'aime bien c'était un dessin de Wouch. Alors, il y avait une bulle, donc on voit deux personnes, un homme et une femme, et dans la bulle, il y a marqué « L'autre jour, j'ai laissé tomber mes lunettes. Sa main frôle ma main. Il sent bon. Alors mon cœur se met à battre. C'est lui. Je me relève, je mets mes lunettes et je dis « Pas sûr. » Bon. Voilà. Voilà. Donc voilà. Donc souvent, en fait, les signes, ils sont souvent donnés après. Alors, je peux témoigner pour moi-même. Donc, j'ai été appelé à être prêtre. Une proposition qui sollicite ma liberté, voilà. Bon, j'ai eu des petits signes avant, mais enfin, vraiment, je pouvais interpréter comme je voulais. Et le jour, enfin, après mon ordination, j'ai eu trois signes très très forts, j'ai trouvé. Il faut que je vous les dise, alors, du coup, maintenant. Alors j'ai pas amené de dessin, c'est dommage. Le premier signe, ça a été je voulais faire une petite carte d'ordination avec le lavement des pieds. Donc petite carte d'ordination, et les gens m'ont dit c'était une carte de Jean Vanier, vous savez, les images de Jean Vanier, vous voyez pas, de l'arche un peu naïve, et les gens m'ont dit ouais, bon, c'est pas terrible ton image et tout. Bon, alors du coup, je vais faire une autre image, parce que l'image, c'est pour les gens. Bon. Alors, je pensais faire l'appel de Mathieu de Caravage, vous savez, peut-être vous connaissez. Et puis, du coup, j'appelle un copain qui est à Rome en lui disant, écoute, tu peux me faire des images, parce qu'en France, un imprimeur, il ne vous fait pas l'appel de Mathieu, il y a des droits, c'est tout un bazar. Donc, il faut tricher. Bon. Donc, ça ne marchait pas. À Rome, on pouvait le faire. Et mon copain me dit, c'est pas possible. Parce que nous, on a déjà fait nos images. En fait, sur une plaque, vous mettez 12 images, l'imprimeur, il les coupe et tout. Bon, bref, du coup, j'avais plus d'images. Au même moment, une personne m'appelle, une amie de mes parents, en disant, écoutez, voilà, je vous appelle, j'ai une œuvre pour vous, un cadeau pour vous. C'était un rétable, donc d'un mètre sur un mètre, qui représente Jésus qui lave les pieds de ses disciples, donc en bois et en terre. Et je ne connaissais pas la personne, une amie de mes parents. Et donc, j'ai eu ce cadeau-là. Et le diocèse de Paris a bien voulu photographier ce rétable gratuitement. Donc, j'ai eu 2000 images gratuites. Et c'était un lavement des pieds. Ça a été le premier signe. Le deuxième signe, ça a été mon calice. Alors, j'ai dit, tiens, j'aurais bien un calice un peu comme ça, etc. Et un jour, dans une église, je vois un calice qui me plaît bien. Je dis, tiens, ça serait vraiment... Vraiment celui-là. Je le photographie. Et le diocèse vous prête un calice à vie, hein, d'un prêtre décédé. Alors, je les appelle 15 jours avant. Ils me disent, écoutez, on n'a pas grand-chose parce que On a déménagé, mais venez quand même. Et j'apporte mon image. Il y avait trois boîtes. Je sors le calice de la première boîte et c'était pratiquement le même que la photo. Alors, faudrait, le samedi, je vous amènerai le dimanche, là, je vous amènerai la photo parce que vous verrez. Donc voilà, ça c'était le deuxième signe. Et le troisième signe, ça a été les chasubles. Alors, je lui ai dit, tiens, j'aimerais bien en fait des chasubles avec du tissu qui viennent de Damas. Moi, je n'ai jamais été à Damas, puis je ne veux pas y aller, voilà. Donc, comment faire? Voilà, en Syrie. Et un jour, je vais à un week-end de l'Emmanuel, puis je dis, tiens, je vais m'asseoir devant quelqu'un que je ne connais pas. Et le gars était un coopérant Fidesco, qui était revenu, qui repartait, et qui travaillait à Damas. Alors, je lui dis, écoute, ça c'est intéressant, toi, tu travailles à Damas. Bon, ben, j'aimerais bien des tissus comme ça, voilà. Et il m'a dit, mais pas de problème, moi, je te ramène tous les échantillons que tu veux. Et il m'a ramené au séminaire en dernière année tous les échantillons de la boutique. Du coup, j'ai commandé. Et après, j'en ai commandé pour la paroisse. Vous voyez ? Donc, j'ai eu trois. Alors, pour moi, c'est des signes, vous voyez ? Le tissu introuvable que vous ne trouvez même pas à Rome, le calice exactement comme le vôtre, que vous voulez, et le rétable du lavement des pieds, alors que... bon. Donc, voilà. Bon. J'aurais dû amener ça, voilà, prochaine fois. Ce que je veux dire par là, donc une proposition qui sollicite ma liberté, donc vous n'avez pas forcément de signes, les signes viennent plus après. Ce qui fait que, vous voyez, un père spirituel, par exemple, ne va pas dicter ce qu'on doit faire, parce qu'il doit nous laisser libres. Il va poser les questions pour voir si le discernement a été fait. Donc, la question par rapport à un père ou quelqu'un qui accompagne, hein, c'est pas forcément un père spirituel, ça peut être un laïc. C'est à nous de lui apporter les éléments pour qu'il puisse nous poser les bonnes questions. Le problème, c'est qu'on peut très bien se débrouiller pour présenter les choses, ce qui fait que, en fait, on a déjà décidé, discerné avant... qu'il puisse nous poser des questions. Et vous présentez. Le problème, le père spirituel, il fait avec ce qu'on lui donne. Et si on lui donne le truc qui fait qu'on a déjà, nous, la réponse et déjà décidé nous-mêmes, donc il y a vraiment manière de présenter. Bon, alors on va le voir après comment présenter les choses. Derrière cette question de la liberté, je suis toujours là-dedans, c'est ce qu'on appelle le don de science qui est sollicité. Le don de science, c'est la capacité de relire notre histoire et de voir à travers les événements de la vie les traces de Dieu. Hein? Don de science, ce n'est pas pareil que le don d'intelligence. Voilà. Don d'intelligence, c'est comprendre la parole de Dieu. Don de science, c'est comprendre les événements. Voilà. D'accord ? Cinquièmement, donc ce qu'elle est, un, mon devoir quotidien, deux, un appel de l'Esprit Saint qui est doux, trois, une proposition qui me rendra heureux, quatre, une proposition qui sollicite ma liberté, cinq, une proposition qui m'invite au dépassement, un certain deuil, un passage, un exode. La volonté de Dieu, souvent, nous appelle à un certain dépassement, un certain deuil, un exode. En fait, nous allons toujours vers ce qui est le plus rassurant, le plus confortable, le plus sécurisant. Dans une paroisse, les gens, ils veulent toujours faire ce qu'ils ont déjà fait avant. Dans mon ancienne paroisse, je faisais, je sais pas quoi, la préparation au mariage, donc je voudrais, dans cette paroisse, faire la préparation au mariage. D'accord, mais peut-être que tu peux faire catéchuménat. Voilà. Mais ouais, mais je suis pas très formé. Bah, mais tu peux peut-être faire telle formation. Oui, mais j'ai peur. Bon. Voilà. On va toujours vers le plus rassurant, le plus confortable. Hein? Les disciples, dès qu'il faut passer la mer, ils veulent pas passer la mer. Ils aiment pas la mer. Il y a l'autre rive. On sait pas ce qu'il y a. Donc soyons conscients. Nous sommes capables, davantage capables. De faire des efforts pour quelque chose qu'on a choisi nous-mêmes que pour quelque chose qu'on nous propose. Les gens, ils sont prêts à se défoncer pour une activité qui monte, mais pas prêts forcément à servir pour une activité qu'on leur propose, qu'ils n'ont pas inventée eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, du coup, par rapport à ce discernement, vous voyez, c'est assez complexe, par exemple, pour un évêque. Si la volonté de Dieu implique un dépassement, quand il doit nommer un prêtre quelque part, il faut à la fois nommer ce prêtre dans ses cordes, un petit peu dans ce qu'il est, dans son tempérament, et en même temps, il faut le nommer dans un truc qui va aussi le faire grandir. Donc aussi, où c'est un peu... c'est pas très rassurant. Il faut doser. Si c'est trop périlleux, il fait un burn-out, il tombe en dépression et tout ça. Si c'est trop comme il veut, le prêtre se monte sa petite, son ministère et il progresse pas quoi. Bon, ça va pas. Alors sixième petit point, une proposition qui me rend sain, me grandit. Une proposition qui me rend sain, alors là, vous voyez, on ne discerne pas forcément comme ça. On discerne souvent en termes de fécondité. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour sauver le monde? Vous voyez, pour évangéliser? Bon, ça, c'est déjà le. Les gens, en fait, ils discernent. Les gens, ils peuvent discerner. Qu'est-ce que j'ai envie de faire l'année prochaine? Alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire? On s'en fiche ce que tu as envie de faire ou pas. Ça, c'est le truc un peu nul. Donc, ils sont à l'étape B. L'étape B, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour évangéliser le monde? Là, c'est pas mal. Vous voyez, des gens qui ont fait le parcours marial, ils savent que c'est là. Bon. Mais il y a une troisième étape qui est qu'est-ce qui va vraiment me rendre saint? Parce que, en fait, ce qui est plus important, c'est l'être. C'est pas tellement l'agir. Souvent, quand quelqu'un rentre dans une communauté, par exemple, je pense à l'Emmanuel, parce que j'y suis, parfois, il va rentrer pour faire des choses. Et en fait, il va y rester parce qu'il a compris que c'était un lieu pour être saint. Mais si il est que dans l'agir, à un moment donné, il va partir. Vous saisissez? Donc, les motivations, les premières, ne sont pas forcément les bonnes. Mais c'est pas très grave, le principal c'est que les motivations dernières soient les bonnes. Voilà. Vous voyez, quand on dit la famille, la famille de Jésus, il en instituait 12, Marc 3, 13, pour être avec lui et pour les envoyer prêcher. Donc on voit bien que c'est l'être d'abord qui est important et pas l'agir. Mais Pierre, il est plutôt du tempérament de l'agir, Pierre. Je vais aller avec toi, je ne vais pas t'abandonner, etc. Vous voyez, il est beaucoup dans l'agir, Pierre. À un moment donné, il faut qu'il passe à l'être. Bon. Donc, une proposition qui me rend sain. Oui, dans le discernement, mais c'est des trucs en paroisse qu'on ne fait pas. Enfin, quelqu'un, je ne sais pas quoi, qui ferait la préparation au mariage depuis 5 ans. Bon, alors je leur dirais, si par exemple, ils avaient envie de réfléchir, de discerner, vous, donc ça fait 5 ans, là, vous sentez que vous progressez, que ça vous rend sain. C'est pas forcément leur question. Bon. Voilà ce qu'est la volonté de Dieu. Ça vous va? Bon. Donc maintenant, comment la discerner? On a vu ce que c'était que la volonté. Bon. Maintenant, on va apprendre comment la discerner. Alors, la première chose, donc je vous donne combien de points? Je vous donne 11 points. Bon, la première chose, c'est qu'il faut qu'il y ait, vous ayez, comment dire, pour discerner la volonté de Dieu, il faut accepter qu'il y ait matière à discerner. en fait, accepter qu'il y ait matière à discerner. En fait, beaucoup de gens, alors quand je dis beaucoup de gens, c'est moi, vous voyez, enfin, beaucoup d'entre nous, beaucoup de gens, en fait, ne discernent pas. C'est-à-dire que les choses, on décide les choses, mais on ne passe pas par un discernement. On pense que nos choix sont bons, on les fait par habitude. Vous voyez, quand le pape écrit la joie de l'évangile, ce grand texte, c'est pour dire à l'Église, écoutez, il y a matière à discerner. Il faut discerner sur le fonctionnement dans l'Église. Voilà. Donc, parfois, on fait des choses, mais on n'est pas passé par la case départ. Bon. Mais oui, mais pourquoi je ne veux pas discerner? Parce que j'ai peur, en fait, que je ne fasse pas ce que j'imaginais faire. Deuxième point, comment discerner en se posant la question du moment? La question du moment. Est-ce que c'est le bon moment pour décider, pour prendre cette décision? Je suis au chômage, largué par ma copine, en colère contre mes parents, j'ai un souci de logement. Est-ce le bon moment pour discerner mon entrée au séminaire? Bon, voilà. Troisième point, en vivant d'abord les commandements. Vous voyez que les choses se recoupent. Hein. Je vous ai dit, la volonté de Dieu, c'est le devoir d'État. Comment discerner en vivant d'abord les commandements? C'est-à-dire les volontés de Dieu. Vous voyez, le jeune homme riche, il cherche la volonté de Dieu. Hein. Marc chapitre 10. « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Est-ce que tu connais les commandements ?» Bon, donc, c'est assez simple. J'ai eu ça par rapport à... Enfin, il y a des cas où il y a des gens, par rapport aux commandements, ils font un peu des entorses et ils vous disent que c'est la volonté de Dieu. Alors, bon, je suis pas trop d'accord. Quatrième point... On la discerne comment? Par une vie régulière avec le Seigneur. Donc une vie régulière, c'est une vie de prière, une vie sacramentelle et un engagement auprès des autres. Voilà. C'est pas que de la prière, c'est aussi un peu s'engager auprès des autres, se mettre déjà en mouvement. Derrière, c'est quoi? Ce qui veut dire que la volonté de Dieu, c'est pas... Je vis n'importe comment pendant un an et je fais une retraite. Non. Mais la volonté de Dieu, elle se voit dans la vie quotidienne. Vous voyez, Marie, elle n'a pas tellement besoin de discerner. Parce que Marie, elle est en Dieu en permanence. Plus vous êtes en Dieu, pourquoi on se pose aussi? Parce que... Parce qu'on est un petit peu comme une vinaigrette où il y a l'huile, le vinaigre, le sel, le poivre, tout ça, ça. Mais quand la vinaigrette se pose, à ce moment-là, le détail se fait. On voit, tiens, là, il y a ça, ça, ok, je vois les proportions. Donc, dans un vrai quotidien habité par le Seigneur, c'est plus facile. Après, on va vérifier par un temps. Moi, j'ai fait une retraite de 30 jours avant d'être diacre. Donc, j'ai posé les choses, etc. Mais... J'ai pas vécu une vie de patachon pendant 6 ans avant ma retraite diaconale. Bon. Alors, cinquième point, donc, en vivant dans le présent, la volonté de Dieu, en accueillant mon lot de contrariété. En accueillant mon lot de contrariété. Souvent, on va prendre le texte numéro 1. Alors, je lis. Nous n'imaginons pas, en effet, à quel point notre refus du réel, de l'événement se présentant à nous ici et maintenant, nous épuise et pompe énormément d'énergie. Quand nous passons notre temps, sans même nous en rendre compte, à nous arc-bouter contre ce qui est, à exiger dans un bras de fer continuel que tout se passe comme nous l'avons décrété dans notre petite tête, ne nous étonnons pas de connaître de grosses fatigues, d'être accablés par des tensions intérieures. Le lâcher-prise, l'acceptation confiante de ce qui va arriver, le oui à la volonté de Jésus dans l'événement, produit au contraire une détente profonde jusqu'à une reprise d'énergie. Saint Paul, qui ne ménage pourtant pas sa peine dans l'annonce de l'Évangile, confie que l'énergie du Christ agit en lui avec puissance. Donc vous voyez, accueillir le réel. Vous avez, par exemple, vous faites une activité avec des groupes. Vous êtes toujours la personne qui va se débrouiller pour choisir son groupe. Vous voyez, qui va jamais... elle va toujours se mettre avec ses copains, etc. Elle ne va jamais dire « Bon, ben, je vais accepter le réel. On va me mettre dans un groupe. Si vraiment j'ai une antipathie avec quelqu'un, je vais le signaler. Mais une personne, si j'ai une antipathie avec 15 personnes, le problème, il est chez moi, à mon avis. Bon. » Mais voilà, et je vais accepter, bon, ben voilà, je vais être avec des jeunes, des vieux, je sais pas quoi, bon. Il y a quelque chose que je peux vivre. Hein. Mais sinon, je vais toujours fabriquer mon truc. Bon. Le réel, voilà, le réel. Vous avez des prêtres qui... Oui, c'est pareil. Enfin bon, qui fabriquent un peu leur nomination et tout ça, bon, mais... Bon. Alors... Sixième point, en demandant l'indifférence ignatienne. Alors, l'indifférence ignatienne, c'est quoi ? C'est cette distance par rapport à l'objet qui fait que, en fait, que je fasse la chose ou que je ne la fasse pas, c'est pas très grave. Et pareil, pour celui qui fait la proposition, je te propose, voyez s'il discerne, parce qu'on peut discerner des deux côtés. Celui qui fait une proposition peut dire, tiens, j'ai pensé à toi pour le catéchuménat, mais si la personne qui fait la proposition est dans un discernement, si c'est un vrai discernement, il faut qu'elle ait aussi une distance, c'est-à-dire... J'accepte qu'elle me dise oui pour les catéchuménats ou j'accepte qu'elle me dise non. Je vais pas lui présenter en la manipulant pour qu'elle dise oui. Donc, distance. Hein. Et la distance est suffisamment forte pour qu'on prenne comme signe de Dieu les mouvements du cœur. On demande en quelque sorte ce cœur pur. Alors, cette indifférence ignatienne, pour qu'elle soit plus concrète, je vais lire avec vous le texte numéro 3. Non, enfin 2, voilà. Alors, c'est Saint Ignace qui en parle. L'homme est créé pour louer, révérer, et servir Dieu notre Seigneur, et par là sauver son âme. Et les autres choses sur la face de la terre sont créées pour l'homme, et pour l'aider dans la poursuite de la fin pour laquelle il est créé. Vous voyez, Saint Ignace reprend exactement le début de mon enseignement, où je vous ai dit, le but, la volonté de Dieu, c'est le salut. L'homme, il est créé pour sauver son âme, et les autres choses de la terre, là, les trois voitures, elles sont là pour l'aider dans ce salut. D'où il suit que l'homme doit user de ces choses dans la mesure où elles l'aident pour sa fin et qu'il doit s'en dégager dans la mesure où elles sont pour lui un obstacle à cette fin. Je vais lire le texte en entier, puis j'en reviendrai et je commenterai. Pour cela, il est nécessaire de nous rendre indifférents à toute chose créée, en tout ce qui est laissé à la liberté de notre libre arbitre et qui ne lui est pas défendu. De telle manière que nous ne voulions pas, pour notre part, davantage la santé que la maladie, la richesse que la pauvreté, l'honneur que le déshonneur, une vie longue qu'une vie courte, et ainsi de suite pour tout le reste, mais que nous désirions et choisissions uniquement ce qui nous conduit davantage à la fin pour laquelle nous sommes créés. Alors, il est nécessaire de nous rendre indifférents. Je voudrais commenter ça, nous rendre indifférents. Vous voyez, nous rendre indifférents, c'est un acte, c'est pas un état. Je suis indifférent, ça m'intéresse pas. Ça, c'est un état, c'est pas un acte. Je vais me rendre indifférent. Donc, je vais faire un travail sur moi-même. C'est vrai que j'avais vraiment envie, à la session de parelmonial, de m'occuper des veillées ou j'avais vraiment envie d'être responsable des fleurs, j'avais vraiment envie, là, parce que ça fait 3 ans que je suis à l'équipe fleurs, et je voudrais être responsable. Et j'avais vraiment envie, bon, ben, si tu veux discerner, eh bien, il faut que tu te rendes indifférent. Ça veut dire un effort, c'est une action. Bon. Alors, indifférent à toute chose créée, en tout ce qui est laissé à la liberté de notre libre arbitre. Donc, il y a des choses, il y a des questions qui ne sont plus possibles, par exemple, qui sont laissées à notre liberté. Par exemple, quelqu'un, il est marié, ça se passe pas bien dans son couple. Bon, ben, peut-être que je suis appelé à changer et plus être avec Josiane, mais avec Ludivine. Ah non, ça c'est pas laissé à ta liberté. Donc t'as pas de discernement à faire. D'accord ? Bon. Et qui ne lui est pas défendu. Donc si c'est de l'ordre du péché, t'as pas non plus à discerner. Et les choses, quand c'est de l'ordre du péché, non. Tu discernes, faut pas que ça soit défendu. Bon. De telle manière que nous ne voulions pas pour notre part davantage la santé que la maladie. Alors. Ça veut dire quoi, ça? Bien sûr qu'on veut tous la santé. Je ne vais pas dire au Seigneur, écoute Seigneur, je veux bien la maladie, si tu veux me la donner. Non, non. Non, on veut tous la santé. Mais, je cite, il serait nuisible à la liberté et à nos relations aux autres de toujours nous protéger nous-mêmes. Parfois, si vous voulez, on peut très bien de discerner en disant, écoute, en fait, je peux pas faire ça parce que ça va me fatiguer un peu. Et puis, du coup, moi, ce qui est important, c'est mon équilibre de vie. Et donc, je veux bien faire des choses, mais à condition que je sois toujours frais tous les matins. Et oui. Alors, pour comprendre Saint Ignace, vous voyez, je reprends la prière scout qui est inspirée par Saint Ignace. Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre sans souci des blessures, à travailler sans chercher le repos. Donc parfois, vous voyez, le Seigneur nous appelle un peu à être fatigué. Alors, il y a une différence entre fatiguer et faire un burn-out, hein, d'accord ? Mais la vie du disciple est une vie un peu fatigante. Les disciples sont fatigués. Jésus, il dort dans la barque. Donc, quand il ne fait pas semblant, hein, il est vrai homme. Donc, quand il est sur la mer, il dort dans la barque. Donc, quand je dis, donne-moi, Seigneur, je ne veux pas davantage la santé que la maladie, je pense que c'est dans cet esprit-là qu'il faut le comprendre. Je veux bien être un peu fatigué si ça suppose de faire ta volonté. D'accord ? Bon. Quand vous travaillez l'été à une session de parelmonial, par exemple, ben, vous êtes de 7h du matin à 23h, pour certains, quand vous êtes responsable. Ben oui, c'est fatigant. Donc après, la question, c'est comment je vais me récupérer. Ça, c'est la question. Si on est de 7h à 23h pendant 6 mois, c'est plus possible. Et si on l'est pendant une semaine et qu'ensuite... ensuite, en fonction de notre âge, etc. Mais bon... Ensuite, la richesse que la pauvreté. Donc, je veux bien être riche ou pauvre. Vous voyez, les parents de la petite Thérèse étaient riches. Ils ont payé l'hôtel de Lisieux, donc ils avaient de l'argent. Mais en même temps, ils avaient un rapport à l'argent qui était libre, qu'ils avaient donné. Ou la pauvreté. Je veux bien, voilà. Bon. Ben, je veux bien une certaine pauvreté si c'est mon appel. Bon. L'honneur que le déshonneur. Alors, l'honneur que le déshonneur. Je vais prendre une décision et les gens vont penser du mal de moi. Mais je pense que cette décision est juste. Est-ce que je suis capable ou pas? Est-ce que je préfère en fait ma réputation ou est-ce que je préfère la volonté de Dieu? Voilà. L'honneur, j'accepte d'être au premier rang, de prendre le micro, je sais pas quoi, ou d'être dans un service très caché. Hein, ça c'est très pas. Oui, en communauté c'est pareil. Quand vous êtes en session, à part le monial, il y a toujours des gens, ils veulent bien servir, mais s'ils ont le micro, s'ils n'ont pas le micro, et ça ne s'intéresse pas, ils viennent pas. Bon. Vous voyez. Bon, l'honneur ou le déshonneur. Une vie longue, une vie courte. Bon. Ben, vous voyez, la petite Thérèse, ben, heureusement qu'elle a eu une vie courte. Parce que du coup, on lui a demandé d'écrire le manuscrit, la vie de famille. Ben, voilà, enfin, bon. Bon, enfin, ça, on ne choisit pas trop une vie longue qu'une vie courte. Hein, c'est, bon. Et ainsi de suite pour tout le reste. Bien sûr, c'est littéraire. Vous voyez, chez Ignace, c'est une manière de parler. Bon. L'idée, c'est de dire quoi? Mais que nous désirions et choisissions uniquement ce qui nous conduit davantage à la fin pour laquelle nous sommes créés. Derrière, c'est de dire, en fait, eh bien, j'accepte, en fait, tout.
C'est l'abandon.
C'est l'abandon. Voilà. Donc, c'est. Avant de poser un choix. J'ai bien vérifié que j'allais pas demander à Dieu qu'est-ce que je dois faire si dans mon cœur j'ai des préférences. Oui, parce que si vous avez des préférences, c'est pas possible. Alors, du coup, ensuite, une fois qu'on est indifférent, il va falloir écouter nos préférences. Dans un deuxième temps, Ignace, il a un bon exemple. En fait, il a quelqu'un, je ne sais pas quoi, un recteur, un ecclésiastique, qui lui dit « Écoutez, Ignace, j'aurais besoin de deux prêtres. Voilà, pour telle mission, donc il y a une mission à Venise et puis une autre mission à Rome. Bon, faut deux prêtres. Ah, et alors Ignace dit « Écoutez, moi, je peux vous en donner un seul. Ouais, j'ai qu'un prêtre. Je ne peux pas deux. Bon. » Alors, je vais poser la question à ce prêtre. Alors, comment il fait, Ignace? Eh bien, il va voir le prêtre, il lui dit, voilà, il y a deux missions possibles pour toi, il y a Venise ou Rome. Je te demande de te mettre dans les conditions, voilà, de l'indifférence. Hein, tu connais le petit texte que j'ai écrit d'Ignace, en gros. Donc, le gars se met dans les conditions. Voilà. Donc, bah oui. Donc, en fait, le but c'est pas de voir l'un et l'autre comme mauvais, c'est d'aimer les deux. Bah, à Rome, je serai en pleine ville, etc. Et puis j'aurai un ministère auprès des jeunes, c'est super et tout. À Venise, je sais pas quoi, ça va être un autre type de mission, ça sera bien aussi. Voilà. En fait, les deux sont bien. Voilà. Et ensuite, il retourne voir Ignace. Il dit, bah voilà, ça y est, je suis prêt à accepter les deux. Et à ce moment-là, Ignace lui dit vers laquelle des deux destinations, des deux villes, vous sentez-vous le plus attiré? Voilà. Dans un deuxième temps. En fait, au fond de ton cœur, ben, en fait, c'est quoi qui te paraît juste pour ton salut, pour le salut du monde? Vous voyez, donc c'est dans un deuxième temps, ça n'a pas été tout de suite. Ça va sur l'indifférence? Bon. Septième condition pour discerner, en étant dans une attitude de liberté et donc d'humilité. Voyez, l'humilité, je ne peux pas discerner, le discernement va toujours avec l'humilité et la liberté. La liberté, c'est-à-dire je ne cherche pas à plaire à quoi que ce soit, ni à moi-même, ni aux autres. Et puis l'humilité. L'humilité, vous voyez, j'en avais parlé, je crois, je ne sais plus trop. Est-ce que je cherche le succès, le pouvoir ou la fécondité? J'en ai pas parlé de ça? Non. Si, je vous l'avais fait, le petit sketch, tout ça. Hein, bon. Donc, si je cherche le succès, pour discerner, ce n'est pas facile, parce que, en fait, dans ma tête, je veux du succès. Si je cherche le pouvoir, c'est difficile de discerner. Par rapport à une mission, là c'est le cas d'une mission. Hein, on est, bon. Par contre, si je cherche la fécondité, que je sois avec le micro, sans le micro, c'est pas très grave. Que je sois nommé, pas nommé, que je fasse. Moi ce que je veux, c'est la fécondité. Voilà. Donc, du coup, le vrai discernement va avec l'humilité. Dans une paroisse, si les gens se proposent et veulent le succès, c'est compliqué, quoi. Par contre, s'ils veulent vraiment une fécondité, c'est pas grave. Dites-moi, vous savez, pour la soirée, si vous voulez que je fasse ça ou ça, dites-moi où il y a des besoins. Dites-moi où il y a des besoins, c'est pas pareil que moi je voudrais faire ça, ça m'arrange. Voilà, c'est pas... Bon. Voilà. Huitième point, donc. En faisant des colonnes. Alors, ça, c'est une méthode, plus ou moins. Je mets, tiens, point positif de faire ça, point négatif. Si je vais à Rome, positif, négatif. Si je vais à Venise, positif, négatif. Je fais des colonnes. Mais alors, après ces colonnes-là, il ne faut pas les réfléchir de manière intellectuelle. Il faut les réfléchir au niveau de l'attrait du cœur. Alors, le truc classique, c'est la vocation. Si je suis consacré dans le célibat, c'est très beau. D'abord, la vocation, c'est quand même... c'est le top, quoi. C'est quand même... si je suis prêtre, c'est comme Jésus, quoi. C'est quand même être comme Jésus, quoi. Donc, c'est quand même très grand. D'ailleurs, Jean-Paul II parle de l'excellence de la vie consacrée. Ah oui, bon. Deuxième point, il y a besoin de prêtre. Hein, donc, voilà, c'est quand même... oui. Là, vous voyez, la personne, elle raisonne de manière intellectuelle. Il y a besoin de prêtre. Tu raisonnes pas parce qu'il y a besoin de prêtre. Oui. Donc... Tu vas raisonner, prêtre, pourquoi? Parce que j'ai un argument, c'est que j'ai fait une expérience de 2 mois avec des prêtres et j'étais heureux. Voilà, ça c'est un argument, ça, tu vois. Parce que, voilà, telle ou telle chose. Mais la question, c'est quand même la question du cœur. Bon. Sinon, les gens, ils discernent par rapport à des trucs complètement impersonnels. Tu veux ça? En fait, tu le veux ou tu ne le veux pas? Mais j'en ai pas du tout envie. Alors pourquoi tu étais en train de... Bon. Il y en a où chez certains qui sont beaucoup dans le devoir. Vous voyez, ça c'est une certaine époque. Donc dans cet attrait, donc en ressentant les choses, il y a une sorte de ressenti aussi. Bon. Voilà. Donc ressentir les choses, c'était mon 9e point. Bon, je pourrais supprimer. 8 et 9, c'est un peu pareil, l'attrait, ressentir les choses. Bon. Non, enfin, 8e point, c'était les colonnes. 9e point, c'est en ressentant les choses. Bon. Donc, il y a quelque chose, une oreille du discernement. Vous voyez, vous êtes là, vous êtes dans une équipe, et puis il y a tel projet, vous ne savez pas tellement pourquoi il ne faut pas faire ce projet, mais vous sentez qu'il ne faut pas le faire. Vous ne savez pas tellement pourquoi il ne faut pas prendre ce gars-là pour modifier la sono de votre paroisse. Vous voyez, rationnellement, vous ne savez pas trop, mais vous sentez qu'il n'est pas très bon, le gars. Mais vous ne savez pas expliquer. Vous voyez, donc il y a... Alors, ça, ce ressenti, c'est au fur et à mesure. C'est-à-dire, parce que j'ai exercé mon discernement par rapport à des petits ressentis dans la vie quotidienne, qui fait qu'à un moment donné, d'autres décisions, ça marche. Mais ça marche parce que j'ai été habitué à discerner sur des petites choses. Bon. 10e point, en demandant conseil. Alors, vous avez deux écueils, la personne qui consulte tout le monde et la personne qui consulte personne. Donc, question, la personne qui me conseille est-elle légitime ? C'est-à-dire, je demande conseil, mais je demande conseil en fait à quelqu'un qui, comme par hasard, ouais, pense comme moi et puis va dire ce que j'ai envie d'entendre. Donc, est-ce qu'elle est légitime? Pourquoi je la choisis, elle, pour ce conseil? Bon. De toute manière, même si je demande conseil, à un moment donné, c'est moi qui vais y aller. C'est moi qui prends la décision. N'attendons pas, parce qu'il y a des gens, en fait, ils demandent conseil à tout le monde, et puis à un moment donné, en fait, ils veulent qu'on prenne la décision à leur place. Ben oui, je dois faire ça, d'ailleurs, l'autre, il m'a dit que je devais le faire. Bon, et il y a des gens qui ne demandent jamais conseil, évidemment, parce que sinon, ils sont sûrs que ça ne va pas se réaliser comme ils voudraient. Onzième point, par le temps. La nécessité du temps. Voyez, j'aime bien cette parole de Saint Matthieu, j'ai plus la référence. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguiser en brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups rapaces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Vous voyez, ces faux prophètes qui viennent déguisés, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ben, pour qu'il y ait des fruits, il faut qu'il y ait du temps. Les fruits ne viennent pas tout de suite. Donc vous voyez, c'est, derrière, c'est tout... vous voyez, pour des gens fiancés, on leur dit c'est important que vous viviez un temps de fiançailles. Parce que le temps va permettre de voir la lumière. Voilà, est-ce qu'on... Vous voyez, dans une équipe, dans une paroisse, moi, j'essaye de connaître un peu les gens. Je ne leur demande pas tout de suite quelque chose. Enfin, normalement, quoi. Pour les connaître un peu. Parce que le temps permet de discerner. Bon. Voilà. Donc, est-ce que nous acceptons le temps dans notre vie comme un moyen de mûrir? Bon. Ça va?
Oui.
Sur comment discerner? Alors, dans les 5 minutes qui me restent, 9h15, 10h15, oui. Alors, maintenant, comment on est sûr que c'est le Seigneur qui nous parle et non pas notre imagination? Maintenant que j'ai fait tout ça, hein, j'ai compris ce que c'était que la volonté de Dieu, c'est le salut, j'ai compris ce qu'elle était, mon devoir d'État, etc., machin, un truc qui me dépasse... J'ai compris comment la discerner avec ces 11 petits points. Et maintenant, je veux être sûr. Alors, pour être sûr, eh bien, 3 points. La première chose, en acceptant de remettre à d'autres notre idée. Alors oui, ça rejoint un peu demander conseil, c'est vrai. Hein? Je demande conseil, bon, ça rejoint un peu ça, c'est sûr. Livre de Tobie, chapitre 4, verset 18. Prends l'avis de toute personne sage et ne méprise pas un conseil profitable. Ouais. Donc voilà, j'ai vu des couples où... l'autre, il fait un achat, mais en fait, il n'en a pas parlé à son conjoint. Bon. Remettre à d'autres notre idée. Je lis le texte numéro 5. Sainte Faustine, le 9 juillet 1937, reçoit la visite d'une âme du purgatoire, une religieuse décédée. Elle m'a demandé un jour de jeûne et d'offrir à son intention, ce même jour, tous mes exercices spirituels. J'ai répondu que je le ferais. J'ai demandé à la Mère supérieure de m'autoriser à jeûner, ce que je n'ai pas obtenu parce que je suis malade. Quand je suis entré à la chapelle, j'entendis ces paroles de la religieuse décédée. Si vous aviez jeûné, ma sœur, j'aurais obtenu ce soulagement ce soir seulement. Mais grâce à votre obéissance qui vous a empêché de jeûner, j'ai obtenu ce soulagement immédiatement. L'obéissance est une grande force. Après ces paroles, j'entendis « Dieu vous le rende ». Alors, j'aime bien cette parole du roi Baudouin, texte numéro 6. Le danger qui nous guette, c'est la flatterie. Il nous faut trouver les gens qui oseront nous contredire et nous arrêter dans un projet qui mérite de l'être. Mon Dieu, entoure-nous de personnes de cette trempe et de cette droiture et fais que nous acceptions la contradiction. D'accord. Deuxième point, après remettre à d'autres notre idée. Deuxième point, c'est en vivant les choses. Si vous voulez, quelqu'un qui... Alors, je prends un exemple tout bête. Hein, quelqu'un qui se pose la question d'être membre de foyer de charité, ben, tu veux savoir si tu es appelé, ben, faut que tu rentres au foyer de charité. C'est en étant, en passant 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, que tu verras si tu es appelé. Hein? Comme dit le psaume, ta parole est une lumière sur mes pas. Donc ta parole est une lumière sur mes pas. Je pose des pas et j'ai la lumière. Un petit peu comme... Mais si j'ai pas de pas, j'ai pas de lumière. Un petit peu comme la... Vous savez, dans les jardins sophistiqués, vous sortez du garage et vous avez une petite lampe à détecteur dans la nuit. Mais tant que vous ne faites pas un pas dans la nuit, le détecteur ne s'allume pas. Il ne vous repère pas. Donc, il faut oser sortir du garage quelques secondes dans la nuit. Il faut oser poser un pas. Du coup, je prends une décision, je fais la chose, et à ce moment-là, alors, soit je vois que je ne suis pas fait pour, et en général, je le vois au fruit de l'esprit, que vous retrouvez en Galates 5, 22. Alors, vous voyez, par exemple, j'ai quelqu'un, là, dernièrement, je lui ai demandé quelque chose, et puis, la personne m'a envoyé un mail en disant « Non, non, cette proposition, c'est pas possible. Je pourrais pas le faire. » Elle m'envoie un mail à 22h. Et le lendemain matin, à 11h du matin, 11h du matin, elle m'envoie un nouveau mail. Finalement, j'ai écrit un peu vite et je me rends compte que je peux le faire. Je pense que le fait d'avoir écrit le mail avec des arguments, c'était intéressant parce que c'était vraiment... ça sentait pas le truc très très juste. Eh bien, voilà, c'est parce qu'elle a dit non, elle a posé un pas, qu'elle s'est rendue compte qu'elle pouvait dire oui. Et tout d'un coup, vous posez une décision, vous vous rendez compte que, tiens, elle n'est pas juste. C'est assez intéressant. Et il y a une parole, hein, Exode 24, 6. Tout ce que Dieu a dit, nous le ferons et nous comprendrons. Hein, tout ce que Dieu a dit, nous le ferons et nous comprendrons. C'est parce que nous allons vivre les choses qu'on va les comprendre, qu'on va voir. Alors, je vous donne aussi une autre référence, Genèse 13, 15. Vous savez, c'est Dieu qui dit à Abraham, je vais te donner un pays. Dieu dit à Abraham, Abraham, tout court, parce qu'il ne s'appelle pas encore Abraham. Dieu dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et regarde de l'endroit où tu es, vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Vous voyez, Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il se met en route dans un pays, c'est pas très bien, ça c'est en Genèse 12, va dans un lieu. Ensuite, il y a un problème avec Lot, au niveau de la terre. Ils doivent se séparer. Et il y a une terre fertile, sympa, et une autre terre pas terrible. Et comme il est dans l'indifférence, Abraham, ben il dit à Lot, tu choisis la terre que tu veux. Alors Lot, il prend la meilleure. Mais la meilleure, on va voir que par la suite, elle n'est pas tout à fait meilleure, parce qu'avec l'histoire de Sodome et Gomorre, bref, ça se détériore. Et tandis que Abraham, il prend le dernier truc pas terrible, et à ce moment-là, Dieu parle. Tu as pris une décision, alors voilà, maintenant, tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et ta postérité pour toujours. Il a la lumière parce que la décision a été prise, que le pas a été posé. D'accord ? Donc, deuxième point, nous avons le discernement en vivant les choses. Si je ne vis pas les choses, je n'ai pas le discernement. Vous avez des gens qui sont paralysés, qui ne prennent aucune décision, qui n'avancent pas, mais parce qu'ils veulent avoir toutes les certitudes avant de sauter dans la mer. Non, il faut être comme Pierre, il faut marcher sur l'eau, fixer sur Jésus, écouter ton cœur, voir les fruits de l'esprit à ce moment-là, et puis, bon. La dernière chose, comment on est sûr ? Eh bien, réponse, on ne saura jamais. Voilà. On ne saura jamais. Jésus leur dit, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez être dans une barque. Et une barque, ça bouge. Une barque, c'est pas stable, quoi. Du coup, est-ce que j'étais sûr d'être appelé à être prêtre ? Oui, le jour où l'évêque m'a dit, je t'ordonne prêtre. Là, j'étais sûr. Avant, je n'étais pas sûr. Myriam, qui s'occupe de la conférence à Vincent de Paul, est-ce qu'elle devait de toute éternité s'occuper de la conférence à Vincent de Paul ? Ben, elle sera au ciel. Voilà, est-ce que un tel qui s'occupe de ça doit. On ne sait pas. Mais heureusement. Alors, je vous lis un petit texte qui vient d'où ça ? Une catéchèse de Bruno Lefebvre-Pontali, c'est un vicaire épiscopal de Paris. Alors, il dit ceci. Le fait de ne pas être toujours absolument sûr de faire la volonté de Dieu, explique le père Jacques Philippe dans son livre La liberté intérieure, est aussi pour nous une pauvreté douloureuse qui nous protège. Elle nous garde petits et humbles, en constante recherche. Elle nous évite de nous appuyer sur nous-mêmes et d'être dans une sorte de fausse sécurité qui nous dispenserait de la foi et de l'abandon. Le pape François, dans l'interview qu'il a donnée au mois d'août dernier aux revues jésuites, rappelle qu'au cœur de tout discernement, il demeure un espace pour le doute. Les grandes figures bibliques elles-mêmes ont laissé une place au doute. Il y aurait un risque, dit-il, à trouver Dieu en toute chose et à dire avec certitude et arrogance « Dieu est ici ». L'attitude juste, rappelle le pape, est celle de saint Augustin qui affirme qu'il faut chercher Dieu pour le trouver et le trouver pour le chercher encore. Dieu demeure toujours une surprise.